France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans Un jour dans le monde, nous verrons ensemble pourquoi le Groenland n'est certes pas à vendre, mais très attractif, pas seulement pour les États-Unis. Vous verrez aussi qu'il aime ça, le Groenland. Qu'on lui fasse des propositions, ce sera grâce à notre première invitée ce soir. Le bruit du monde nous emmène en Éthiopie, dans un village qui ne veut plus subir la sécheresse et montre qu'on peut devenir autosuffisant. Amélie Perrier, elle, est en Jamaïque, en Autriche, en Thaïlande et aussi au Mexique. 18h50, Julia Foyce et les femmes du monde. 18h55, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four avec ce nouveau calcul politique des Italiens. Pas si tordu, vous allez voir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Mikko Méren.
Bonsoir Fabien Sintès.
Professeur de géopolitique à l'Institut libre d'études des relations internationales. Votre spécialité, ce sont les mondes polaires. Vous allez sortir d'ailleurs ce mois d'octobre. Les mondes polaires, c'est publié sur Presses universitaires de France. Nous y sommes. Mikko Méren, quand Donald Trump a fait rire la planète en disant qu'il voulait acheter le Groenland, il y avait beaucoup de buzz à faire. Il y avait Twitter derrière. On a bien compris que tout ça était beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. La course à l'exploitation du Groenland, ça, on sait depuis longtemps que ça existe. Mais est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont très en retard, très désengagés? C'est ça le message qu'ils nous envoient là?
Ce qu'il envoie comme message, c'est pas forcément on est très désengagés. Ce qu'il envoie comme message,
et
c'est
on veut se réengager,
absolument. Et c'est quelque chose qui est excellemment bien fait. C'est-à-dire que Donald Trump, on connaît ses phrases, on connaît sa façon de travailler. Il arrive à réduire au silence par ce buzz-là, d'ailleurs, ses opposants politiques en interne. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'Arctique en particulier, c'est qu'il arrive à porter un discours qui est résolument différent de celui sous l'époque Obama, qui consiste à dire, à l'époque on parlait d'environnement, on parlait de science, on parlait que de ça. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, de militaire, on va reprendre notre place.
Alors, qui est le mieux placé sur quoi en ce moment? Et qu'est-ce qui intéresse tout le monde en priorité au fond? Parce que il y a les ressources, il y a la géopolitique, il y a les routes, il y a beaucoup de choses. Donc, l'intérêt premier, c'est quoi en fait?
C'est bien pour ça que mon livre sur la partie arctique a plus de 250 pages.
Mais je vous en prie, je redirai son titre si vous êtes sage.
Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur chacune des thématiques, vous pouvez avoir un leader différent. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle de la région, le grand leader, c'est la Russie. C'est la Russie d'un point de vue pas juste territorial, mais aussi d'un point de vue politique, stratégique, militaire. Évidemment, sur les questions aussi d'exploitation des ressources, questions énergétiques. Et puis, juste un petit mot sur la Russie, ils pensent aussi aux énergies renouvelables, pas que aux énergies fossiles.
Mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que c'est le nickel, le fer, le zinc, l'or, du diamant? On a l'impression que c'est une mine d'or, cette île du Groenland. Donc les Russes, par exemple, qui là pour le coup ont aussi un intérêt géographique qu'on voit bien. Les Russes, c'est quoi leur intérêt sur le Groenland par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, par rapport aux Norvégiens?
Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'au Groenland, le débat se situe vraiment entre les États-Unis et la Chine. La Russie est relativement désengagée du Groenland. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est son territoire, ses eaux et ses ressources et ses routes maritimes. Le Groenland est un petit peu à part. Le Groenland a une position de pivot, c'est-à-dire que pour l'administration américaine, aujourd'hui le Groenland, ça représente quoi? Ça représente une capacité de projection stratégique vers l'Arctique central, mais aussi vers la zone transatlantique, et ce qu'on appelle le GIUK, qui est un concept très populaire au moment de la guerre froide, c'est-à-dire le bras de mer entre le Groenland, l'Islande, puis entre l'Islande et le Royaume-Uni, qu'il faut absolument protéger, puisque c'est un accès à l'Arctique. Donc, au Groenland, c'est surtout États-Unis, Chine aujourd'hui, évidemment Union européenne, bien sûr, puisque le Groenland reste encore un territoire semi-autonome appartenant au Danemark, et la Russie est relativement à part sur la question du Groenland.
Alors, je disais tout à l'heure, je faisais une liste un peu un inventeur à la Prévert de ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur de ce territoire. J'ai cité ces noms-là parce que il y a une chose qui tilte à nos oreilles, ce sont les fameux métaux rares, qui sont détenus pour l'instant à 90% par la Chine. Aujourd'hui, est-ce que ça, typiquement, par exemple, ça fait partie de ces choses sur lesquelles il faut mettre la main pour éviter que les Chinois un jour nous disent « moi, je ferme le robinet et vous vous débrouillerez comme vous voulez avec vos smartphones, vos panneaux solaires, vos batteries et tout ça ».
Mais c'est tout le paradoxe de l'Arctique. C'est-à-dire que d'un côté, on se plaint que l'Arctique fonde et on a raison de se plaindre que l'Arctique fonde.
On va y venir.
Bien sûr, mais de l'autre côté, si on veut aujourd'hui faire la transition écologique et la transition digitale, les deux, on a en effet besoin de métaux rares. Et il se trouve que l'Arctique, la zone arctique, si on prend l'ensemble des pays de la zone et en particulier le Groenland, c'est quand même la deuxième réserve mondiale de terres rares.
Alors, mais justement, est-ce qu'il y a des règles là-dedans ou est-ce que c'est le moment effectivement de se jeter dessus. Vous parliez tout à l'heure des préoccupations d'environnement de Trump qui sont effectivement pas celles d'Obama. On sait par exemple que dans les eaux arctiques proches de l'Alaska, il y a des endroits où il n'a pas le droit de forer. Mais là, est-ce qu'il y a réellement des règles ou est-ce que tout ça est à prendre en fait réellement ?
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et là il faut s'inscrire en faux, notamment par rapport aux propos de notre ambassadrice des pôles qui a tendance à dire que l'Arctique est un Far West ou un Far North, maintenant dit-elle. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'Arctique n'est ni un Far West ni un Eldorado. C'est un territoire qui est géré par 8 États qui ont chacun leur législation, voire même au sein de ces États, vous pouvez avoir des législations locales, notamment en Russie. Vous avez aussi des traités internationaux qui s'occupent de la zone arctique, qui traitent chacun un petit enjeu. Alors oui, c'est sûr, c'est pas la même chose que l'Antarctique, où on a un traité global qui arrive à protéger l'ensemble du continent. Mais en Arctique, aujourd'hui, ce qui marche, c'est de rentrer par le marché. Et c'est ce que font très bien les Chinois. Ils arrivent à rentrer au Groenland, pas avec des muscles, mais avec l'argent.
Donc ça veut dire que les vaches sont bien gardées pour l'instant, en fait, dans cet endroit-là. Donc Trump, lui, décide tout simplement de mettre les pieds dans le plat, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Est-ce que c'est aussi une manière de forcer une négociation auquel ni les Groenlandais ni les Danois n'avaient pensé, au fond ? Est-ce qu'il va y retrouver des billes ? On sait qu'il a une base militaire. Est-ce que c'est une manière de dire, ah ben tiens, vous savez quoi, puisqu'on en parle, on n'a qu'à l'étendre ? Est-ce qu'il va y trouver des billes à ce buzz-là, là, dans les mois qui viennent ?
Mais absolument, en fait, Donald Trump n'a pas lancé le buzz en réalité. Donald Trump s'inscrit dans une stratégie donc de reconquête, ou en tout cas de réengagement en Arctique, qui court depuis déjà plus de 18 mois dès qu'il est arrivé. En réalité, les États-Unis, quand il est arrivé, présidaient à l'époque le Conseil de l'Arctique, donc c'est l'organe diplomatique de référence de la région. Puis, c'est la Finlande qui l'a présidé, donc ils avaient un petit peu moins d'espace pour mettre les pieds dans le plat et essayer d'orienter le jeu de la région. Finalement, avec ces coups de semonce à la fois de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, à les différents secrétaires d'État à la Défense, et ensuite Donald Trump lui-même, vous avez toute une administration qui est dédiée vers l'idée de essayer de bouleverser l'équilibre qui existait en Arctique.
Ça veut dire qu'il va y revenir. D'une manière ou d'une autre, il reviendra par la fenêtre, en fait.
Alors, ce qui est clair, c'est que d'une part, le Danemark ne va pas aller contre Trump, puisque le Danemark reste dépendant des États-Unis pour sa défense. Et Donald Trump, en jouant avec le Danemark, sait qu'il joue avec un pays sur lequel il n'a pas beaucoup de risques. Et de l'autre côté, pour Donald Trump, entre les intérêts internationaux et aussi les gains politiques nationaux dont on a parlé, c'est tout bénef pour lui de continuer.
Et pour les Groenlandais, est-ce que au fond ce bruit est tout bénef aussi ? Pour l'instant, quand on regarde leur situation économique, notamment, ils sont sous perfusion du Danemark, mais il y a quand même un vrai mouvement indépendantiste qui existe. Donc, est-ce que eux, ce coup de projecteur, finalement, ça les arrange ou ça les gêne un peu aux entournures ? Qu'est-ce qu'ils y retrouvent ?
Ce qui est très intéressant au Groenland, c'est de voir que justement, ce côté buzz n'a pas été négatif du tout. Le Groenland a une grosse difficulté aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de faire parler du Groenland à l'échelle internationale.
On va rappeler, il y a 55 000 personnes qui vivent au Groenland sur un territoire qui est la deuxième plus grande île du monde.
Oui, grand comme quatre fois la France.
Voilà,
absolument.
Pour donner une échelle. Ouais.
Tout à fait. Et la réalité, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources. Donc, on pourrait dire que c'est un Eldorado sur le papier. Sauf qu'en réalité, c'est pas comme ça que les choses se passent. Pour attirer des investisseurs, il faut leur montrer que sur le long terme, les investisseurs peuvent venir investir et qu'ils vont pas avoir de problème d'ici 30 ans. Il faut pouvoir leur montrer que l'indépendantisme, qui est important et qui est au pouvoir depuis longtemps, ne va pas être un problème pour les investissements. Il faut montrer une stabilité et en plus de ça, faire connaître ses outils, ses potentiels. Donc le Groenland s'investit et fait chaque année des dizaines d'événements locaux et à l'international pour se faire connaître. Et là, grâce à Trump, en 2 jours, le monde entier sait ce qu'il y a au Groenland.
Parce que j'imagine qu'ils n'ont aucune intention de se vendre. De toute façon, ils ne pourraient pas le faire même s'ils le voulaient. Ils n'ont aucune intention de se vendre réellement. Mais en quoi cette histoire-là va réellement, selon vous, attirer des investisseurs privés ? Parce que c'est ça aussi l'important. C'est les privés, ce n'est pas tant les pays, mais c'est aussi les privés. En quoi ça les attire réellement ? Parce qu'ils le savent tous, ce qu'ils ont à aller chercher dans ce sous-sol-là. Ils ne sont pas fous. Ils y sont déjà, d'ailleurs.
S'ils voulaient se vendre, ils pourraient tout à fait se vendre. Ils peuvent très bien décider de se vendre aux États-Unis, à la Chine, qui y veulent, d'un point de vue juridique ou politique ou économique. Donc ça, c'est possible. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec le cas du Groenland, c'est que vous avez un grand pays par la taille et un petit pays par la politique et par l'économie, avec des politiciens qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui ne sont pas formés aux questions stratégiques, qui ne sont pas formés aux questions de la haute administration et ainsi de suite, et qui gèrent le Groenland un petit peu comme ils le peuvent, avec le bon sens, si vous voulez.
Mais ça veut dire que la main sur les ressources ils l'ont réellement. Ou est-ce qu'ils sont pas téléguidés par d'autres, y compris par leurs voisins danois, enfin voisins lointains.
Voisins lointains, c'est sûr. Depuis 2009, en fait, ils ont acquis un dernier paquet de compétences et ils ont aujourd'hui la main tout à fait sur l'exploitation de leurs ressources, qu'elles soient sur terre ou sur mer. Et ce qui est intéressant, encore une fois avec le Groenland, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils bâtissent leur législation, ils savent vendre des licences, et d'ailleurs ils vont en ouvrir plusieurs dès 2021 pour exploiter du pétrole ou du gaz sur l'île elle-même. Donc petit à petit, le Groenland apprend aussi à naviguer à l'international. Il voit bien maintenant comment ils se font lobbyer, par exemple, par la Chine. Très clairement, quand la Chine est arrivée au Groenland la première fois en 2012 pour proposer aux Groenlandais de participer à un espèce de cartel des pays producteurs de terres rares sur la même manière, sur le même modèle que celui pour le pétrole ou pour le gaz, ils ne savaient pas trop comment réagir. Ils avaient dit non, mais sans trop savoir. Et là, aujourd'hui, ils savent qu'ils ne veulent pas.
Mais ça veut dire qu'ils savent faire jouer la concurrence désormais. Mais du coup, pour leur intérêt à eux, en fait, qui est le plus intéressant pour eux? Si les États-Unis prennent plus de place et de poids, finalement, est-ce que ça les intéresse, les Groenlandais? On dit Groenlandais, d'ailleurs.
On dit Groenlandais.
Si les États-Unis prennent plus de place, c'est mieux pour eux que si les Chinois continuent à s'étendre. Leur intérêt à eux, il est où?
C'est-à-dire que sur les 15 dernières années, les États-Unis se sont désengagés. Et à partir de là, quand vous parliez des États-Unis, les gens vous disaient, oui, d'accord, ils sont là, bon, ils ont la base de Thulé, c'est super, bon. Et pour notre sécurité, ils sont là. Mais d'un point de vue économique, ils n'investissent pas. C'est-à-dire qu'on est sur des règles de marché classiques. Et les entreprises américaines, le Groenland, c'était pas véritablement le marché le plus attractif depuis 15 ans. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de focale. C'est-à-dire que la focale n'est pas que sur les questions purement de business privé, mais il y a une dimension stratégique qui est revenue. Très clairement, l'administration Trump souhaiterait pouvoir étendre les activités de la base américaine de Thulé, peut-être augmenter les activités en remilitarisant ou en utilisant l'ancien aéroport de Kangerlussuaq, qui maintenant n'est plus qu'utilisé que pour le civil, mais le remilitariser au moins partiellement, peut-être même acquérir une autre base, une base navale danoise que les Danois avaient mis sur le marché et pour lesquelles il n'y avait que les Chinois qui voulaient acheter il y a quelques années. Bref, il y a toutes ces dimensions-là qui sont beaucoup plus stratégiques qu'avant et qui ne sont pas juste liées au marché.
Plus stratégique parce que remilitariser, par exemple, ça veut dire du même coup qu'on remilitarise aussi. Les Russes ont une flotte dans ce coin-là, si je ne m'abuse.
Bien sûr.
Donc remilitariser, ça veut dire que chacun va revoir, y compris sa position militaire dans cette zone-là. C'est aussi ça le fracas que peut provoquer une entrée des deux pieds en avant de Donald Trump.
Alors, en fait, vous pouvez voir les choses de cette manière. Vous pouvez aussi dire, et c'est plutôt ça qu'on dit à Washington, que pour l'instant, ce n'est qu'une réponse, que ce sont les Russes qui ont commencé, entre guillemets. Donc, on a ce dilemme de sécurité, c'est-à-dire cette espèce d'effet boule de neige où les Russes ont commencé à remilitariser, donc il faut qu'on soit présent. Et si on est présent encore plus, ils vont l'être encore plus, et ainsi de suite.
On va parler des routes aussi juste dans un instant. Je voudrais juste que vous nous rappeliez pourquoi les États-Unis avaient renoncé finalement, puisqu'en 1867, ça pouvait être dans le package en même temps que l'Alaska. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour qu'ils disent finalement ça ne nous intéresse pas? Et y compris après, en 1946, pourquoi ils ont renoncé à ce moment-là? En fait
c'est deux packages différents. En 1867, il y avait une négociation avec les Russes pour l'Alaska qui a abouti, et une négociation avec le Danemark pour les Antilles danoises qui a abouti 50 ans plus tard finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1946, les logiques étaient relativement différentes. En 1867, le président Johnson à l'époque, qui était un peu président par défaut après l'assassinat de Abraham Lincoln, avait dit, voilà, il faut qu'on arrive à étendre la nation. On était toujours dans cette logique expansionniste. Alors qu'en 1946, quand le président Truman a proposé au Danemark d'acheter le Groenland pour donc la deuxième fois, on était plutôt dans une logique stratégique. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on voyait que l'Arctique, avec les nouvelles technologies, allait être militarisé, donc il fallait avoir les deux sentinelles nord pour protéger le continent nord-américain. L'Alaska, c'était bon, il fallait le Groenland.
Alors, Mikko Mered, on a parlé, il nous reste quelques minutes, on a parlé de la stratégie, effectivement la stratégie militaire, ce qu'on trouve aussi à l'intérieur et autour du Groenland. Et puis il y a ces fameuses routes, en fait, qui font rêver, même qu'on lit dans les livres, les fameuses routes de part et d'autre qui mettent subitement, même Singapour et le Japon, à beaucoup moins de miles nautiques et qui permettraient de bouleverser le commerce. Est-ce que ça, c'est un fantasme? Ou est-ce que oui, aujourd'hui, avec la fonte des glaces, on va réellement ouvrir cette route-là, et elle va vraiment concurrencer la route du Sud.
Quand le syndicat des Soitiers de Lyon en 1523 s'est intéressé pour la première fois au passage du Nord-Est potentiel, c'était un fantasme. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, le passage, il est ouvert. Il est praticable par des navires conventionnels, donc ils n'ont pas de capacité glace trois mois par an. Aujourd'hui, il est déjà ouvert d'ailleurs à l'instant où on se parle, mais il est disponible, il est ouvert neuf mois par an, par exemple, pour des brise-glaces nucléaires russes. Donc petit à petit, cette route, elle est ouverte. Mais ce qui est très intéressant par rapport aux routes maritimes de l'Arctique, c'est qu'on peut se dire, il y a le nord-est côté russe, il y a le nord-ouest côté canadien, mais il y a aussi la route au milieu, la route par le pôle. Et clairement, ce que les climatologues nous montrent aujourd'hui, c'est que la route du nord-est, elle est déjà ouverte. La route du pôle nord, c'est celle qui va ouvrir en deuxième. et la route du Nord-Ouest canadienne, celle qui va ouvrir en troisième. Donc le Groenland n'est pas tellement un enjeu de route maritime, puisque le Groenland, ce qui l'intéresse, c'est surtout le passage du Nord-Ouest qui va donc s'ouvrir en dernier.
Alors il y a autre chose moi qui m'intrigue, quand on dit qu'à cause du réchauffement climatique, effectivement, donc puisque ça fond, ça permet à la fois d'ouvrir des routes et d'avoir accès à des zones, notamment pour du forage, de manière plus facile, on va dire. Qu'est-ce qu'ils font au Groenland? Est-ce que c'est la banquise qu'ils font? Est-ce que c'est la calotte glaciaire? Je vous pose la question parce qu'il y a de l'eau salée, il y a de l'eau pas salée, et,
oui.
et ça change tout pour les ressources derrière. Qu'est-ce qu'ils font au Groenland réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et qu'est-ce que du coup, commercialement, ça peut changer en fonction de que ce soit la calotte ou la banquise?
Et ça change tout aussi pour la montée du niveau des mers, c'est-à-dire
aussi.
Que la calotte glaciaire, c'est-à-dire la glace qui est sur le territoire groenlandais et quand elle fond, elle tombe dans la mer, c'est de l'eau douce qui rencontre de l'eau salée. Et ce faisant, cette glace fait monter le niveau des mers. La banquise, par contre, quand elle fond, ce qui se passe, donc c'est de l'eau salée, de l'eau de mer en fait, hein, qui gèle l'hiver et qui se dégèle l'été, quand elle n'est pas formée, la chaleur du soleil, les rayons du soleil ne sont pas renvoyés vers
Mais
l'atmosphère.
Du coup, là, le plus important,
du
c'est
coup, tout
quoi
se réchauffe.
Et qu'est-ce que ça change pour l'exploitation autour? C'est plutôt de l'eau douce, là, ou plutôt de l'eau salée?
Alors, au Groenland, vous pourriez dire que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est la banquise autour du Groenland. Mon capitaine, absolument, j'ai été gentil. C'est les deux qui fondent, puisque c'est à la fois la banquise autour du Groenland. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toute la partie sud-sud-ouest du Groenland est libre de glace toute l'année. Dès aujourd'hui.
Mm-hmm. Oui, et c'est puis, vert même dans les images qu'on peut en avoir. Ouais.
Greenland, c'est pas juste parce que c'était vert il y a 100 ans ou 1000 ans, c'est vert aujourd'hui toujours. Et puis ensuite, il y a la calotte glaciaire qui fond en plus.
Voilà, ça en fait du terrain pour Trump et les autres et une occasion supplémentaire pour vous de revenir, Mikko Meret, puisque vous avez été sage, je vous l'ai promis, ça s'appelle Les Mondes Polaires, c'est publié chez PUF sur les enjeux contemporains des pôles, ça sort au mois d'octobre. Merci beaucoup de
merci
votre passage
infiniment.
Dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde qui résonne ce soir en Éthiopie, dans un village qui travaille à son autosuffisance et par ordre d'apparition. Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir.
Qui fait du bruit aujourd'hui sous les radars, Amélie, en Autriche, en Thaïlande, au Mexique et en Jamaïque.
Oui, en Jamaïque, la Jamaïque victime du contrôle pas assez rigoureux des armes aux États-Unis. Des centaines de milliers de revolvers et de fusils échappent aux autorités américaines et font des ravages dans l'île des Caraïbes.
Julia Foyce et ses femmes dans le monde qui revient aussi avec l'image de la semaine, Julia.
Oui, c'est ça, c'est un membre du Parlement néo-zélandais qui est vraiment très 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 jeune.
Et Jean-Marc Four, tout de suite à vous aussi. Les Italiens font des micmacs politiques.
Bonsoir à tous. Oui, alors option 1.
Un micmac qui peut avoir du sens.
C'est ça. Option 1, c'est une farce politique comme d'habitude en Italie. Option 2, c'est un tournant politique majeur.
Et merci à tous. On se retrouve tout à l'heure. Voici Jirma Benayé sur France Inter. La chanson date de 2016. Elle s'appelle Leye Lembesh. Ça nous emmène tout pile vers le reportage qui vient jusqu'en Éthiopie. À tout de suite.
Kan yelelebish Kibiriske rasish Sitting ask a bari Ene ne baymanish Alohye mithi Grundink yehonsh Wizarit Ethiopia Mintitabikyalish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Conjit in a name by Tramach would it beat Wichiba de babai And Nika we malin Anchin Bakuf we miai Thank you. with some Ethiopia wheat. And a mardi mama, we there eat Ethiopia. Can't get any name by Teramage with a beat. We keep up the babai and the cow and malin. Anchin, but if we may.
Le bruit du monde, ce soir, commence dans le nord de l'Éthiopie, dans un village modèle, en quelque sorte, un village qui a décidé de prendre à bras-le-corps la sécheresse chronique, l'érosion des sols, les famines récurrentes, en changeant ses pratiques agricoles. C'est Vincent Dublange qui nous y emmène.
Oui, le village d'Abrea Wehatsbea est situé dans le Tigray, c'est à l'extrême nord du pays, avec la région plus au sud du Gwelo. C'est là qu'ont frappé les famines qui avaient ému le monde dans les années 80. À la fin des années 90, les habitants cherchaient toujours à quitter le village. L'occupation millénaire des hauts plateaux et l'exploitation agricole qui va avec, les modifications climatiques, les raisons sont probablement multiples, Fabienne, mais le fait est là, les sols sont épuisés, la terre sèche et rocailleuse. Tendez l'oreille, Fabienne. Au milieu de ce beau verger, les oiseaux sont nombreux, heureux et le font savoir, car ils trouvent de quoi se nourrir en quantité eux aussi. La pioche sur l'épaule, Asqual Alefom nous emmène visiter son jardin.
Là, ce sont des mangues et là, des oranges. Et ici, c'est du café.
Du café, Fabienne, rendez-vous compte. L'Éthiopie est certes le premier producteur d'Afrique, mais les paysans du Nord ne pensaient pas en cultiver un jour. Madame Asqual poursuit la visite. Au fond du verger, un puits de 8 mètres de profondeur, financé pour moitié par l'État. L'eau, c'est la clé dans le Tigray.
Ici, la terre a besoin de beaucoup d'eau et de compost. On donne de l'eau et du compost toutes les 2 ou 3 semaines. On a 2 puits, c'est assez pour tout le jardin.
Allez, traversons la rue et entrons chez Abba Hawi. C'est lui l'ancien administrateur du Kébélé, la commune en Éthiopie. 31 ans à son poste, c'est un ancien maquisard de la guérilla marxiste qui a chassé la dictature en 1991. À l'époque de la lutte, il recevait des formations dans le maquis, notamment agricoles. C'est de là que lui sont venues ses idées, renforcées ensuite par des conseils d'universitaires. Abba Hawi a commencé par sa parcelle. Il a créé un écosystème où tout est interdépendant.
Ça, c'est des mangues, regardez. Elles servent à 2 choses. La première, ça donne le fruit, ça se mange et ça se vend. La deuxième, c'est que les abeilles peuvent butiner dans les fleurs. On a tout ce qui est cultivable en Éthiopie.
Mais l'action de l'ancien chef du village ne s'est pas limitée à son chez-lui. Il a demandé à tout le monde de changer. Fini le pâturage sur les flancs de collines pour permettre à l'herbe de repousser et de maintenir la terre. Abba Hawi a aussi obligé chaque adulte à donner 40 jours annuels de travail gratuit à la communauté. C'est la continuité de ce travail que vous entendez là. Sous le soleil qui cogne, des habitants amassent des pierres qu'ils entassent ensuite dans de grands carrés de grillage. Amateteka est l'une des travailleuses.
Je construis des digues, des terrasses, pour retenir la terre quand il y a la saison des pluies et que l'herbe repousse dessus. Que notre bétail boive de l'eau propre, et mange de l'herbe.
Aujourd'hui, le travail n'est plus gratuit, mais réalisé en échange de 15 kilos d'orge. C'est un programme de la Banque mondiale pour éviter les famines aux plus pauvres. Ils sont encore 1 million à en bénéficier à Abra Ouatsbera. On part pour la capitale régionale, Mekele. Désormais retraité de son poste d'administrateur, Abba Hawi va souvent à l'université de la ville. Ah. C'est le professeur Gebreiwot Tadesse qui l'accueille.
Les gens lui criaient dessus au début, ils se plaignaient. Mais maintenant, ils ont compris. Car le microclimat a changé. Les nappes phréatiques se sont rechargées. La végétation s'est grandement améliorée. La conversion des ressources naturelles prend du temps. On ne voit les bénéfices qu'après des années.
Allez, on remonte en voiture une dernière fois. Attention, Fabienne, descente vertigineuse au programme depuis le haut plateau jusqu'à la plaine semi-désertique de la région Afar. Les ingénieurs de l'université de Mekele viennent lancer les travaux d'un brise-lames, car lorsque la pluie tombe sur le haut plateau, ici c'est un torrent qui creuse le lit de la rivière de plus de 2 mètres en profondeur. Les canalisations pour irriguer les champs voisins sont alors trop hautes. Les paysans ne peuvent plus en profiter, alors même qu'il pleut des cordes quelques centaines de mètres plus haut. Et que vient faire à Bahawi, le paysan tigréen ici dans la plaine Afar, vous me direz? Eh bien, ses exploits ont fait de lui un personnage célèbre dans le pays, alors l'université de Mekele compte sur lui pour deux raisons, l'ingénieur médanier Biere Behan.
En tant qu'expert de l'irrigation, mais aussi pour mettre à profit sa bonne image auprès des paysans. Par exemple, je suis un ingénieur. J'utilise parfois des termes que les fermiers ne comprennent pas. Bahawi comprend ce que l'on dit et ce qu'on pense, et est capable de leur traduire.
La recette éthiopienne, Fabienne, c'est donc un paysan qui parle aux paysans. Le pays pourrait ainsi peut-être réduire le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ils sont encore 8 millions aujourd'hui.
Vincent Dublange en Éthiopie pour Un jour dans le monde et pour RFI. Merci beaucoup Vincent. Le bruit du monde passe sous les radars. Voici Amélie Perrier maintenant. Et Amélie, on a parlé encore une fois cet été des tueries de masse aux États-Unis.
Et de la question insoluble apparemment là-bas du contrôle des armes à feu. Le New York Times sort aujourd'hui une enquête effrayante sur ce fléau qui se répand jusqu'en Jamaïque. La Jamaïque, c'est dans les Caraïbes, au sud de Cuba, à un peu plus de 900 km de Miami et de la côte américaine. Et la violence atteint de tels niveaux là-bas que cet été, un couvre-feu a été décrété, les militaires déployés dans Montego Bay. Alors Montego Bay, disent commerçants de la ville, est un endroit magnifique. Les touristes viennent pour les plages de sable fin et tout ce qu'il y a autour. Et l'état d'urgence est censé rassurer les touristes et les gens qui viennent de l'étranger, leur garantir que l'état les protège. Donc cet état d'urgence, nous dit-il, c'est selon moi une bonne chose. Car la Jamaïque est l'un des pays où le taux d'homicide est le plus élevé au monde, avec 47 meurtres pour 100 000 habitants. Alors en comparaison, en France, il est d'1,4 meurtre pour 100 000 habitants. Et puis aux États-Unis, 5,4 homicides pour 100 000 habitants. Les États-Unis responsables en partie de cette crise sécuritaire, selon le New York Times. Le journal affirme que des centaines de milliers d'armes disparaissent du sol américain à cause de lois peu rigoureuses. Beaucoup, donc, réapparaissent en Jamaïque. D'ailleurs, les autorités de l'île leur donnent des petits noms. Elles ont listé les 30 armes les plus meurtrières du pays grâce aux analyses scientifiques et balistiques. La police les retrouve en fait de scène de crime en scène de crime et les baptise donc Ghost, Ambrogio ou Brianna. En tout, les autorités jamaïcaines estiment, selon le New York Times toujours, que 200 pistolets ou fusils arrivent chaque mois illégalement des États-Unis. Et le problème ne concerne pas que la Jamaïque. Au Mexique, on évoque le chiffre de 200 000 armes importées clandestinement chaque année, donc des États-Unis.
Allez Amélie, on passe à une autre forme de criminalité, cette fois en Autriche.
Oui, la police est sur les dents, elle traque de mystérieux voleurs de cloches. Oui, vous entendez
oui,
bien.
Oui, on entend bien les cloches.
Des cloches de vaches. Ces dernières semaines, les voleurs ont sévi à plusieurs reprises pendant que les bêtes ruminaient dans les alpages à plus de 1000 mètres d'altitude. Et parmi les énigmes de cette affaire, le mobile des détrousseurs. Car les cloches ont surtout une valeur sentimentale pour les bergers, les éleveurs. En tout, le butin ne représenterait que quelques centaines d'euros pour 13 cloches volées ce week-end et puis un petit peu plus tôt au mois d'août. Le dernier forfait a été découvert hier. L'enquête est à suivre.
Voilà, on en connaît, nous, des cloches, on peut en donner. Allez, des photos rares en Thaïlande.
Qui parlez-vous? Des photos rares oui, en Thaïlande, des photos inédites même de la concubine officielle du roi. Cette concubine, elle s'appelle Sinenath. Le palais vient de diffuser une soixantaine d'images où on la voit en tenue militaire. Elle est membre de l'unité des gardes royaux, ancienne infirmière des armées. Elle apparaît aussi en tenue décontractée ou traditionnelle aux côtés de Rama X, c'est le nouveau roi, qui, contrairement à son père, cultive le mystère autour de lui et passe plutôt son temps en Allemagne. Rama X, qui réhabilite donc ici la polygamie disparue du palais royal depuis un siècle. Et ici, c'est la cérémonie. En juillet dernier, le roi, aux côtés de la reine épousée 3 mois plus tôt, fait de Sinenath sa concubine officielle, sa seconde femme, qui n'a pas le titre de reine. La dernière intronisation d'une concubine remonte à 1921. La Thaïlande s'appelait alors le royaume de Siam. Mais pas question d'émettre une critique là-bas. Le roi et sa famille sont protégés par une loi de lèse-majesté. Elle prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour quiconque insulte la famille royale. On ne dira rien sur la polygamie.
Non, on dira rien du tout. On termine avec un record. Amélie, c'est au Mexique.
Oui, le record du plus grand nombre de danseurs de mariachi. Alors ils étaient 882 habillés de robes chamarrées, de costumes traditionnels mexicains, sombrero compris, et ils viennent de réaliser la prouesse de danser tous ensemble à Guadalajara, dans l'ouest du Mexique. Ouais, c'est assez sonore, hein, puisque ce week-end, la plus grande danse folklorique du monde. Le précédent record affichait seulement, entre guillemets, 457 danseurs. Là, on est monté à 882 sur scène. Et les conditions pour enregistrer l'exploit étaient strictes. Les participants devaient danser au moins 5 minutes sans interruption et sans sortir de la zone d'essai, cette scène. Donc, il fallait aussi qu'ils suivent la même chorégraphie, sans parler des costumes.
C'est vraiment très intéressant.
C'est assez fascinant, moi, je trouve. 882 danseurs de mariachi. Vous ne vous émerveillez plus.
Mais c'est vrai, c'est vraiment
Fabienne,
terrible.
Franchement.
Amélie, merci beaucoup. Vous revenez demain,
peut-être.
Évidemment. On change d'ambiance. Allez, voici les Nationals sur France Inter. Light Years.
Outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Light years away from you.
Light years. Light years sur France Inter. Light years. Oh, voilà Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
De Julia Foyce, pas son genre dans le monde. Chaque semaine, des nouvelles des femmes et de la planète LGBT. On commence, Julia, avec l'image de la semaine.
Qui nous emmène tout droit en Nouvelle-Zélande, la sauvagerie de ses roches volcaniques, sa farandole de petites collines, ses 60 millions de moutons, si je les ai comptés. La Nouvelle-Zélande et son Parlement et sa moquette kaki, ses bancs kaki aussi, un peu vide. Hein. Ce jour-là, on redémarre la session parlementaire en douceur, sur les bancs kaki, donc plutôt des hommes, plutôt blancs, plutôt pas très jeunes, tout va bien, tout est normal. Sauf que, écoutez bien Fabienne.
The Honourable Mark, when you made that ruling, I received this handwritten note. Acknowledge your ruling around the use of terms of community safety, Mr. Speaker. Thank you.
The Honourable Ron Mark.
Thank you, Mr. Speaker. All is absolute pleasure.
Vous l'avez entendu?
Ouais, un petit peu, un tout petit bruit.
Eh ben oui, c'est un bébé, pas un mouton qu'on égorge, non, un bébé. Un bébé au Parlement néo-zélandais en pleine séance. Il a l'air bien dans les bras de Trevor Mallard, le président de l'Assemblée, qui s'empresse d'ailleurs d'adresser via Twitter toutes ses félicitations au papa, papa au pluriel. Wairiki Coffey, député travailliste tout juste revenu de congé paternité, et son conjoint Tim. Vous l'avez, Fabienne, congé paternité, deux papas, un bébé à l'Assemblée. Eh ben voilà, ça s'appelle un strike et prrra, bienvenue en 2019.
Allez, on continue avec nos petits génies de la semaine.
Qui, eux, visiblement, sont restés bloqués en 2017, avant le 14 octobre, avant MeToo. Les petits génies de la pub hein, chez BMW qui présentent leur dernier modèle. Attendez, je lis. Un concentré d'intelligence. C'est la voiture imposante, des formes athlétiques, un design expressif, une motorisation musclée, un châssis affûté et sûr de lui. Oh oui, il est sûr de lui, le châssis. Extraverti, non conformiste, avec le caractère un petit peu provocateur de la double calandre rétro-éclairée. Carbure à quoi exactement chez BMW? Bref, cette voiture, je cite, possédant tous les attributs du mâle dominant, conçue pour diriger, vous prédestine au rôle de chef de meute. Et je suppose que vous irez chasser le mammouth après le rond-point à gauche. Évidemment, BMW s'est fait tacler sur les réseaux sociaux. Chef de meute et mâle dominant, comment vous dire, ça coince un peu hein, par les temps qui courent. Résultat, l'entreprise a rectifié le tir. Aujourd'hui, sa petite dernière est conçue pour... exceller, on va dire que c'est moins marqué. Fallait-il, hein, ne fallait-il pas, quid de la puissance des réseaux sociaux, terrorisme, de la pensée unique ou salutaire aggiornamento de notre vocabulaire? Je ne sais pas, Fabienne, je ne sais pas. Moi, tant qu'ils n'ont pas touché à ma double calandre rétro-éclairée, tout va bien.
Allez, modernité un jour, modernité toujours.
Et le scoop de la semaine, attention, ça vaut sa petite cacahuète. Non, les femmes ne sont pas génétiquement programmées pour descendre les poubelles et prendre rendez-vous chez le pédiatre depuis la cage d'escalier. Non, elles ne possèdent aucun attribut physiologique d'aucune sorte qui leur permette de préparer un smoothie, céleri, basilic, curcuma et de changer des couches, à la fois vaut mieux, les deux en même temps c'est un petit peu dégueu. Bref, contrairement aux idées reçues, si les femmes se tapent 80% des tâches ménagères, ce n'est pas... Ah ben voilà, j'ai dit caca, enfin j'ai pas dit caca, j'ai pensé caca et ça rigole. Bref, si elles se tapent 80% des tâches ménagères, ce n'est pas parce qu'elles seraient dotées d'une super capacité neuronale qui leur permette de faire deux choses en même temps. Non Fabienne, c'est juste qu'elles se font avoir. C'est une étude menée par l'université d'Aix-la-Chapelle. On a pris deux groupes de cobayes, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre. On a demandé à chaque groupe de classer des chiffres en paires et impaires et puis des lettres en voyelles et consonnes. Les deux classements devant s'opérer simultanément. Conclusion, tout le monde, eh bien, ils sont aussi mauvais les uns que les autres. Le journal Le Temps, qui publiait cette étude, en déduit. L'aptitude des femmes au multitasking n'a rien de naturel. Il semblerait bien que nous soyons face à un stéréotype qui justifierait les inégalités domestiques entre les hommes et les femmes. Ah bon ?
Oh bah, je n'en crois rien. Allez, mesdames, messieurs, Julia Foyce, merci beaucoup. Puisque je vous tiens, Julia,
oui,
et qu'on
oui.
est entre nous,
c'est vrai, c'est
racontez-nous
vrai, c'est vrai.
Vendredi soir, passons genre,
soir,
nouvelle émission sur Inter en un mot.
Nouvelle émission de 20h à 21h. On va s'amuser à dépiauter l'actualité de la semaine, essayer de déconstruire quelques stéréotypes au passage. Et vendredi, bon, on va parler nichons, tout nu.
Eh bien, très bien. Allez, voilà. Ça commence bien. Merci. À vendredi.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers à Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Italie, les négociations se poursuivent pour former un nouveau gouvernement. Ce sera peut-être fait d'ici demain soir, un peu après, allez savoir. On est tellement habitué, en tout cas, à l'instabilité, au changement d'alliance en Italie, qu'on peut être tenté de voir dans cet énième épisode une péripétie de plus. Mais pour vous, c'est peut-être un moment important pour l'Italie comme pour l'Europe, potentiellement même un tournant politique, et c'est votre Monde à l'envers.
Ah, c'est tentant, hein, c'est tentant de regarder nos amis italiens d'un air amusé sur le mode. Allez, encore un numéro de claquette, encore de la comédia dell'arte, des effets de manche. De toute façon, c'est toujours confus et instable dans ce pays. C'est tentant de voir les choses comme ça. Mais si les négociations en cours aboutissent, ça peut tout changer. De quoi s'agit-il ? De la constitution d'une alliance de gouvernement entre le très inclassable mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Pourquoi ce serait un tournant? D'abord parce que ce serait un coup d'arrêt spectaculaire pour l'extrême droite. Matteo Salvini, vous savez, le patron de la Ligue, ex-ministre de l'Intérieur, devenu homme fort du gouvernement précédent, a pris le pari de faire exploser la coalition en claquant la porte début août. Résultat, il s'est vu trop beau, il est en passe d'être pris à son propre piège et de se retrouver dans l'opposition. Ça serait un échec personnel d'abord pour cet homme de 46 ans qui vient d'avoir une ascension foudroyante. Ce serait la preuve que sa stratégie, c'est-à-dire gouverner par les réseaux sociaux et la démagogie, ne suffit pas à détruire le fonctionnement des institutions italiennes. Il y aurait d'ailleurs là quelque chose d'assez rassurant sur le fait qu'en démocratie, les institutions sont un garde-fou. Et ce serait enfin une sorte d'arrêt buffet dans l'ascension de l'extrême droite en Italie, mais aussi plus largement en Europe, puisque Salvini s'est imposé comme le leader européen des partis de droite radicale. Ça serait le signe que la percée populiste d'extrême droite n'est pas inéluctable. Donc oui, il y a un symbole potentiel majeur.
Et c'est aussi un tournant politique potentiel pour l'Union européenne.
Oui, parce qu'avec ce possible renversement de coalition de gouvernement en Italie, eh bien le pays changerait de pôle d'attraction, presque de camp au sein de l'Europe. Avec Salvini, elle est dans le camp des populistes eurosceptiques, elle est proche du groupe de Visegrad, vous savez, les Hongrois, les Polonais. Elle fait des appels du pied à la Russie de Poutine. Sans Salvini, avec une coalition 5 étoiles Parti démocrate, l'Italie se retrouverait avec un gouvernement pro-européen beaucoup plus proche de la France et de l'Allemagne, comme un retour de l'Italie dans le giron des membres fondateurs de l'Union, ce giron dont elle fait partie. Et puis en plus, il y aurait à la clé une possible réconciliation entre Rome et Paris. Ça serait aussi un gouvernement moins obsédé par l'immigration, plus concerné par l'environnement, avec là encore un impact non négligeable sur la définition des priorités à Bruxelles, comme un effet rebond des dernières élections européennes qui ont vu une poussée écologiste et une percée moins forte que prévue de l'extrême droite. L'Italie, on l'a dit plusieurs fois ici, possède un poids important dans les équilibres européens. Qu'elle change de cap, et c'est un peu tout le gouvernail européen qui bouge.
Alors, sauf que là, on est en train de faire de la politique fiction, Jean-Marc.
C'est vrai.
On n'en est pas là. On parle de l'Italie.
Ouais. Bon, je spécule, j'extrapole, vous avez raison. On devrait savoir si ces négociations aboutissent d'ici demain, 19h. Et c'est vrai, c'est l'Italie, donc tout peut capoter. Les écueils sont nombreux. La tendance naturelle des partis italiens à se chamailler, à se disputer les portefeuilles ministériels. Le caractère imprévisible du mouvement 5 étoiles qui s'est quand même créé sur le refus des alliances politiques traditionnelles. Et puis surtout, les différences de fond entre les deux partenaires potentiels, en particulier sur le budget, l'endettement, les retraites. Donc former un vrai accord de gouvernement sera difficile. Et puis le tout sauf Salvini, là pour le coup c'est pas un programme, ça serait même contre-productif parce qu'une coalition soudée uniquement par le rejet de Salvini, ça serait le meilleur moyen d'échouer d'ici quelques semaines et d'ouvrir grand la porte à un succès de l'extrême droite lors de prochaines élections générales. Donc comme souvent en Italie, en effet, prudence, tout est possible, tout est son contraire, surtout les gesticulations, la politique aérienne, les combinations. Mais si cette alliance 5 étoiles Parti démocrate se construisait vraiment, alors ça serait bien plus qu'un nouvel épisode pathétique du traditionnel soap opera italien. Ce serait un moment important pour toute l'Europe.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup et à demain le 18-20. La suite, c'est juste après ça.